Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. Vous nous appelez et vous commentez l'actualité. RFI vous donne la parole. D'ailleurs, dans 30 minutes, nous lancerons notre débat sur l'accord de paix signé vendredi dernier à Bamako. Un accord censé mettre un terme définitif à l'instabilité dans le nord du pays. Seulement voilà, les principaux groupes rebelles ont refusé de signer ce document. Ils estiment que le texte ne répond pas aux réalités de la crise. Les rebelles réclament donc des discussions supplémentaires. Alors, quelle portée finalement peut avoir cet accord en l'absence des principaux concernés? Faut-il continuer et jusqu'à quand à négocier avec ces groupes rebelles? On en parlera. Vous êtes nombreux au standard d'ailleurs, comme à chaque fois qu'on parle de la paix au Mali, et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI, Appel sur l'actualité. Déjà plus de 300 messages postés. J'en lirai évidemment quelques-uns tout au long du débat pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Et ce matin, plusieurs questions sur Moussa Dadis Camara. Et oui, on reparle de lui, en tout cas lui fait reparler de lui. C'est, je vous le rappelle, l'ancien chef de la junte guinéenne. Amadou, bonjour.
Merci. Bonjour à vos millions d'auditeurs.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Conakry, on vous écoute.
Oui, je vous appelle depuis Conakry, au centre-ville de la commune de Dixi.
D'accord.
J'ai des questions sur l'ancien chef de la junte guinéenne, capitaine Moussa Dadis Camara. L'ancien chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara, a annoncé sa candidature depuis Ouagadougou. Sur ce, j'ai des questions. La candidature de capitaine Dadis Camara est-il recevable tandis qu'il y a des soupçons qui pèsent sur lui?
Ah oui. Ben on va déjà répondre à cette première question, si vous le permettez, Amadou, car c'est toute la question. Est-ce que Moussa Dadis Camara pourra réellement se présenter? Bonjour Olivier Roger.
Bonjour Juan, bonjour Amadou.
Alors c'est vrai que l'ancien chef de la junte fait l'objet quand même d'enquêtes judiciaires.
Oui, enfin il fait l'objet d'enquêtes judiciaires, il a été, on va dire, cité comme témoin. On peut répondre à Amadou à deux niveaux. D'abord sur le plan purement judiciaire, Moussa Dadis Camara n'est pas inculpé, ni par la justice guinéenne, ni par la justice internationale. Il a donc parfaitement la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Rappelons qu'il a été entendu par une commission rogatoire qui était venue au Burkina Faso dans le cadre de l'enquête menée par la justice guinéenne dans cette affaire du massacre du 28 septembre 2009, mais il a été entendu à titre de témoin. La justice, rappelons-le, avait inculpé au moins 8 responsables militaires de premier plan dans cette affaire, mais elle n'a pas inculpé Dadis Camara. Alors, bien évidemment, ça pose beaucoup de questions et beaucoup de Guinéens se demandent pourquoi, d'autant qu'à l'époque, on se souvient que les enquêteurs de l'ONU qui parlent de crimes contre l'humanité concernant ce qui s'est passé au stade en imputent la responsabilité à Dadis Camara. De son côté, on se souvient aussi que ce dernier avait voulu rejeter la responsabilité sur son aide de camp Toumba Diakité, ce qui avait d'ailleurs conduit à la brouille entre les deux hommes et au coup de feu de ce dernier sur Moussa Dadis Camara. Il avait donc voulu imputer la responsabilité à Toumba Diakité, qui s'était défendu en affirmant que lui, au contraire, avait cherché à protéger les leaders politiques qui avaient été pris à partie par les militaires durant ce fameux meeting du stade où a eu lieu ce massacre, une version qui avait été corroborée par François Fall. Donc, en résumé, pour l'instant, Moussa Dadis n'a pas été inquiété par la justice, mais vu les faits, vu aussi ses fonctions à l'époque, puisqu'il dirigeait la junte, il n'est pas exonéré de sa responsabilité. La justice ne l'a pas inculpé, mais elle ne l'a pas encore blanchi. Donc, comme on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, pour l'instant, il n'est pas inculpé, il peut donc se présenter, mais rien ne dit que cette situation durera longtemps. Ça, c'est sur le plan purement technique. Sur le plan, on va dire, moral, on peut aussi se demander si Moussa Dadis Camara a moralement le droit de briguer la magistrature suprême. Il doit des explications à ses compatriotes pour les actes commis par ses soldats à l'époque. Il était le chef suprême des armées, rappelons-le. Il doit aussi s'expliquer sur sa gestion du pouvoir lorsqu'il dirigeait le CNDD, la junte qui a renversé les institutions, rappelons-le, à la mort du président Conté. Un ancien putschiste qui ne s'est jamais expliqué sur ses actes, qui n'a jamais demandé pardon pour les crimes commis par ses soldats contre ses compatriotes. A-t-il moralement le droit de se présenter à une élection présidentielle? La réponse lui appartient. Elle appartient aussi aux Guinéens, bien évidemment. Et en dernier ressort, elle appartient à la Cour constitutionnelle qui doit ou non valider les candidatures à la présidentielle du mois d'octobre, dont la candidature de Moussa Dadis Camara.
Voilà, en tout cas, pour l'instant, il est éligible et on rappelle le bilan particulièrement lourd de ce massacre dans le stade du 28 septembre 2009. Plus de 157 personnes tuées et des dizaines de femmes violées par l'armée. Et à l'époque, Moussa Dadis Camara était donc à la tête de la Guinée. Vous aviez une autre question, Amadou?
Oui. Peut-il rentrer en Guinée?
Oui, il peut rentrer en Guinée puisqu'il rien ne s'oppose à son retour en Guinée puisqu'il n'est pas inculpé, il n'est pas recherché par la justice.
On précise qu'il vit quand même en exil depuis 3 ans à Ouagadougou.
Voilà, hein. Depuis le coup de feu de Toumbaye Kité, il était parti au Maroc se faire soigner. Mmh. Ensuite, Blaise Compaoré l'avait accueilli au Burkina. Il était rentré en Guinée à l'occasion de l'enterrement de sa maman. Mmh. Il était rentré par la route, par le Liberia en avion et ensuite par la route en Guinée forestière, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre. Mais rien ne s'oppose à son retour sur le plan purement technique.
Ouais, Amadou ?
Oui ?
On a répondu à vos questions, vous en avez une autre ?
On sait que le capitaine Dadis a des soutiens en Guinée, notamment dans sa région natale, en Guinée forestière. Est-ce que sa candidature a des impacts sur l'échiquier politique guinéen?
Est-ce qu'il peut perturber effectivement l'échiquier politique guinéen à quelques mois de l'élection présidentielle, puisque ce scrutin, rappelons-le, est prévu en octobre prochain? C'est vrai qu'il continue à avoir une certaine popularité, ça on ne peut pas le nier.
Oui,
il est forestière.
Et dans le landerneau politique, la candidature de Moussa Dadis Camara a fait beaucoup de bruit et elle pose beaucoup de questions. D'abord, tout le monde a été un peu pris de court, à commencer par le président Alpha Condé, qui ne s'attendait manifestement pas, du moins selon les indiscrétions de son entourage, à cette décision de Dadis Camara. Effectivement, il faut comprendre que c'est un homme populaire dans sa région d'origine, la Guinée forestière, qui est un bassin électoral que convoitent tous les grands leaders politiques du pays. En fait, en Guinée, pour gagner une élection, il faut remporter d'une certaine façon la Guinée forestière, sachant que les autres régions ont leur candidat naturel. Et comme le vote est en grande partie régional, les Malinkés votent d'abord pour Alpha Condé, les Peuls votent d'abord pour Sélou d'Alain Diallo et les Soussous se partagent entre plusieurs personnalités, dont Sidya Touré et Alpha Condé, du moins c'est ce qu'on a vu aux dernières élections. Restent les forestiers qui, eux, n'ont pas de leader naturel capable de gagner une présidentielle, du moins pour l'instant. Et le retour de Dadis Camara risque de brouiller les cartes et de rendre plus délicate la tâche pour les autres candidats qui briguent cette région de la Guinée forestière, y compris pour le président de la République, Alpha Condé. Bref, cette candidature dérange du monde, car la Guinée forestière risque de voter en partie pour l'enfant du pays, Moussa Dadis Camara.
Voilà, Moussa Dadis Camara qui risque donc de jouer au trouble fait. On parle au casque, on a perdu Samba, malheureusement. Je vais vite me faire son porte-parole. Il nous appelle de Sigiri, c'est dans au nord-est de la Guinée. Quelle a été la réaction du gouvernement d'Alpha Condé en apprenant cette candidature?
Oui, on a déjà un petit peu répondu, donc je vais être assez rapide. Le gouvernement n'a pas répondu officiellement. Il n'y a pas eu de réaction. Le parti d'Alpha Condé s'est exprimé de façon très neutre en disant que Moussa Dadis Camara pouvait faire ce qu'il voulait, mais on sait que en coulisses le gouvernement, le pouvoir et surtout les autres leaders de l'opposition se posent beaucoup de questions, et cette candidature de Moussa Dadis Camara pose beaucoup de questions aux Guinéens.
À suivre. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous? On peut en parler vendredi dans la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix et vous pouvez vous inscrire dès maintenant 33 9 693 693 70. Merci Olivier Roger. À bientôt. Et bonne journée. D'autres questions à la rédaction, il est 10h19 ici à Paris. Des questions sur Haïti. Vous savez que la semaine dernière, François Hollande s'est rendu sur place. Bonjour Richard.
Bonjour Anne Gomez et bonjour à Marcel Dorigny.
Alors Marcel Dorigny, effectivement, qui va répondre à votre question. Il est historien, spécialiste d'Haïti, des mouvements indépendantistes et abolitionnistes. D'ailleurs, on va l'accueillir dès maintenant. Bonjour Marcel Dorigny.
Bonjour, je vous écoute, je vous attends.
Eh bien écoutez, merci beaucoup déjà, merci d'accepter de prendre quelques minutes de votre emploi du temps pour répondre à Richard, qui a des questions justement sur les relations entre la France et Haïti. On vous écoute Richard.
Oui, bien sûr, Juan Gomez, j'avais suivi
la semaine passée que le président François Hollande avait effectué une visite au secteur officiel dans les Caraïbes et l'a achevé en Haïti, alors que la France a une dette envers ces pays.
Mmh.
Alors, ma question est de savoir pourquoi la France a-t-elle une dette envers l'Haïti?
Ah oui, une dette, et, oui.
Donc, comment la France va-t-elle la payer?
Alors, dette. Alors, on parle de dette, effectivement. On parle même de dette de l'indépendance. Hein. C'est ce qu'on a dit dans l'entourage de François Hollande, Marcel Dorigny. François Hollande qui s'est engagé à renforcer l'aide française en guise d'acquittement de la dette de l'indépendance. Que faut-il comprendre par dette de l'indépendance?
Ah, voilà. C'est une histoire bien compliquée. Je rappelle sommairement qu'en 1804, Saint-Domingue se proclame indépendant et prend le nom de République d'Haïti. 1er janvier. La France ne reconnaît pas cette indépendance. Napoléon, qui est au pouvoir en France, qui est en guerre contre toute l'Europe à peu près, n'accepte pas cet état de fait. Il y aura pendant longtemps des volontés, des velléités, disons-nous plutôt, de retourner en Haïti, de recoloniser ce qui avait été la perle des Antilles, la plus puissante et la plus riche colonie française. Alors, on arrive au début, à la fin des années 1815-1820, à la Restauration, où des négociations ont lieu avec les dirigeants d'Haïti de ce moment-là, c'est-à-dire en fait Alexandre Pétion.
Mmh.
Et on est dans une impasse, car il y a un point sur lequel les dirigeants haïtiens ne veulent absolument pas céder, c'est le principe de la souveraineté.
Mmh.
On peut négocier des accords particuliers avec la France, etc., notamment en matière commerciale, mais rien. Et rien n'a cédé sur la souveraineté. Donc c'est l'impasse. Et nous avons en 1817, le président Pétion, qui propose aux Français, voilà, vous nous reconnaissez comme État souverain, et en contrepartie, nous allons indemniser les colons qui ont laissé sur place des propriétés, des moulins à sucre, des plantations, etc., etc. La France, à ce moment-là, n'a absolument pas l'intention de reconnaître l'indépendance d'Haïti, mais a l'intention d'y retourner. Donc c'est un refus catégorique de toute idée d'indemniser. Les années passent, bien sûr, et rien ne se produit, puisque la France n'a pas les moyens matériels, militaires, navals de retourner en Haïti. En plus, et tout le monde le sait à l'époque, ni l'Angleterre ni les États-Unis n'auraient accepté un retour de la France. Donc on est dans une impasse. Les colons français, de leur côté, qui sont réfugiés en France depuis les événements, comme on dit pudiquement, commencent à faire leur deuil d'Haïti. Ils comprennent qu'ils ne retourneront pas, et que même s'ils y retournent, ils trouveront quoi? Des plantations qui ont été abandonnées, qui ont été dévastées, qui ont été ruinées, les paysans se sont installés à côté, ont développé une agriculture familiale autonome, et en plus, cette population, en grande partie, pas majoritairement, en grande partie issue de l'esclavage, est libre depuis plus de 20 ans.
Effectivement. Et à partir de quel moment, Marcel Dorigny, la situation va-t-elle se débloquer? À partir de quand la France a accepté le plan proposé par Haïti, à savoir, effectivement, qu'Haïti paye l'équivalent tout de même de 17 milliards d'euros d'aujourd'hui?
Voilà. Alors, c'est en 1825 que le nouveau roi, Charles X, pourtant un roi ultra-conservateur, tourne la page. Il avait accepté le principe d'indemniser les émigrés français qui avaient fui pendant la Révolution et l'Empire, et les colons sont furieux parce qu'ils ont, eux qui n'ont pas fui, qui se sont réfugiés en France, n'ont pas d'indemnisation. Donc Charles X, le roi ultra, va publier en avril 1825 une ordonnance, ce n'est pas une négociation, c'est-à-dire une décision unilatérale du roi de France, par laquelle la France reconnaît l'indépendance de la partie française de Saint-Domingue, le mot Haïti n'est jamais employé, en contrepartie du paiement d'une indemnité. C'est une reconnaissance conditionnelle. Autrement dit, si les Haïtiens ne payent pas, il n'y a pas de reconnaissance.
Ouais, donc pour aller un peu vite, mais je sais que c'est passionnant, Marcel Dorigny, les Haïtiens acceptent de payer, ce qui provoque ensuite évidemment des relations très tendues entre Haïti et la France. Aujourd'hui, il y a de nombreux Haïtiens qui disent que cette redevance payée à l'époque est en partie responsable de la situation économique du pays. Elle a eu des conséquences sur le développement d'Haïti?
Ben certainement, c'est très difficile à reconstituer. L'indemnité a été fixée à 150 millions de francs or, c'est-à-dire la valeur on a estimé la valeur des plantations, des habitations, c'est-à-dire des propriétés des colons français en 1789, avant les événements, on n'a pas toujours cette expression événement, avant la révolution en fait, et on dit voilà, par les événements, ces biens ont perdu 90% de leur valeur. L'indemnité, c'est 10% de la valeur de ces biens. 150 millions de francs or. Une somme qui, de toute façon, est hors de portée d'Haïti. Alors, le paiement va se faire, les Haïtiens ont accepté. Jean-Pierre Boyer, président d'Haïti, a fait ratifier cette ordonnance unilatérale du roi de France par le Sénat. Et Haïti, donc les 150 millions étaient payables en 5 annuités de 30 millions chacune.
D'accord, bon, on ne va pas revenir après dans trop de détails. En tout cas, c'était intéressant, ce rappel historique. Merci d'avoir été avec nous, Marcel Dorigny, spécialiste d'Haïti. Richard, voilà, pour cet élément de réponse, on vous souhaite une bonne journée à Kinshasa. On a encore beaucoup, beaucoup de questions ce matin sur la situation au Burundi, après le coup d'État raté visant à renverser le président Pierre Nkurunziza. Joe Dalton est à Lille, dans le nord de la France. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. Ma question consiste à savoir la position des leaders de l'opposition et des leaders de la société civile par rapport à la tentative de coup d'État qui a eu là-bas, parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus.
Ah, bonne question, effectivement. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous de Bujumbura. Vous êtes l'envoyé spécial des RFI au Burundi. Est-ce que l'opposition et la société civile ont soutenu cette tentative de putsch ?
Non, pas vraiment. La société civile, enfin le comité anti-troisième mandat qui avait appelé à manifester, avait dit que par principe, ils condamnaient le coup d'État. Ils avaient juste souligné qu'ils prenaient note du fait que la population s'était félicitée de ce coup d'État. C'est vrai qu'on avait vu des scènes de liesse parmi les manifestants quand il y a eu l'annonce de ce coup d'État. Et donc, ils avaient juste noté ce fait-là. Voilà, simplement noté comme ça. Après, il y a eu évidemment des réactions politiques, mais c'était un peu compliqué pour les politiques de s'exprimer à ce moment-là. Vous savez qu'en période de coup d'État, les situations sont assez tendues. Donc, ils s'étaient exprimés depuis Dar es Salaam, puisque nombre d'entre eux, nombre de ses opposants étaient à Dar es Salaam à ce moment-là. Et à la suite de ce coup d'État, en fait, ils s'étaient montrés un peu méfiants, se demandant un petit peu pourquoi est-ce que ce coup d'État avait pu échouer. Quand on connaît les personnalités qui l'ont fait et qu'elles avaient déjà fait des coups d'État auparavant, on sent la même méfiance qu'au sein de la population pour savoir est-ce que finalement ce coup d'État était un vrai coup d'État, est-ce que c'était une manipulation du pouvoir, est-ce que finalement ils l'avaient vraiment préparé. Enfin, on sentait beaucoup de méfiance et beaucoup de recul. Mais du côté du président, vous l'avez certainement entendu la semaine dernière, il avait lié en fait tous ces événements, le coup d'État, les manifestations et même l'attaque qu'il y avait eu fin décembre, début janvier, en disant que tous ces événements étaient liés. Il n'avait pas nommé de personne, mais le président Nkurunziza avait affirmé qu'en fait, toutes ces personnes, il avait accusé un peu toutes ces personnes d'être en lien.
Ouais. Autre question, Franck est avec nous, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Ok, moi ma question est de savoir que va faire concrètement l'opposition burundaise après la tentative manquée de coup d'État et le retour au pouvoir du président Nkurunziza.
Ouais. Sonia Rollet, concrètement maintenant, quelle est la marge de manœuvre de l'opposition pour contrer la candidature de Pierre Nkurunziza ?
Non, mais le comité anti-troisième mandat a appelé à nouveau à manifester. D'ailleurs, ils ont repris leur manifestation lundi dans les quartiers quand même beaucoup d'appréhension par rapport à ce qui s'est passé et notamment par rapport au déploiement militaire où on avait vu des armes de guerre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit seulement des militaires avec des armes simples, mais hier, on voyait bien une débauche de moyens qui avait été mis sur le terrain, même s'il n'y avait pas eu de blessés. Et donc voilà, non, il reste exactement sur la même ligne, c'est-à-dire de dire coup d'État ou pas coup d'État, finalement, notre mouvement est le même. On continue d'appeler à manifester. Pour les politiques, eh bien, ils continuent de demander le report des élections. D'ailleurs, on a vu que le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ne faisait pas d'objection et que la CENI allait se prononcer sur cette question cette semaine. Donc on attend cette décision de report, ça serait déjà une première chose. On sait aussi que du côté des médias, il y avait eu cette annonce en fait de la présidence du conseil en communication du président pour dire que les radios privées pouvaient reprendre leur programme. Oui. Et donc du côté des radios privées, on est anxieux de pouvoir reprendre ces programmes-là. On a vu encore ce matin que les patrons des radios étaient bloqués à l'entrée, qu'il y avait toujours des cordons de police.
Ah oui.
Donc voilà, il y a une volonté en fait de
poursuivre la mobilisation. On suivra ça évidemment avec vous, Sonia Rollet, envoyée spéciale des RFI au Burundi, tout au long de cette journée. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal. À tout de suite.